Bonjour, ce message audio, proposé par l'église Hosanna, a été enregistré en public lors de l'une de nos célébrations. Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site sur le www.eglisehosanna.com. Vous pouvez nous contacter par courriel à info@eglisehosanna.com ou nous appeler au 02 62 59 66 15.
Ce message vous est prêché par le pasteur Bruno Picard.
Bonne écoute.
Voilà, je ne vais pas être très long ce matin. Je vais maximum prendre 3 heures. Non, je rigole. Ça va être assez bref. Mais j'ai eu sur le cœur, et aussi en accord avec le flow dans ma vie en ce moment, comme vous le savez, nous passons une saison magnifique où Dieu est en train de bénir tous azimuts. Dieu est en train de remplir les cœurs de joie, d'espérance, de grâce. Et vous savez, j'ai vraiment béni le Seigneur cette semaine pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Et en même temps, j'ai été extrêmement attaqué parce que, vous savez, quand tout va bien, vous vous demandez pourquoi tout va bien. C'est bizarre, hein, l'être humain est ainsi fait. Quand tout va mal, on se plaint parce que tout va mal. Et quand tout va bien, on se dit c'est pas normal. Du coup, on peut gâcher le moment de bonheur que Dieu nous offre. Et ce matin, j'ai sur le cœur un message simple, mais vous encouragez tous à penser à ce mot puissant qui est un mot que j'ai vraiment, que j'essaye en tout cas d'intégrer dans ma vie tous les jours, c'est le mot persistance. Tout le monde dit persistance. Tout le monde dit persistance. Vous savez qu'en 2010, il y avait la Coupe du Monde de football. Malheureusement pour moi, c'est pas un très bon souvenir parce que la France s'est fait massacrer. Non seulement elle s'est fait massacrer, mais en plus, vous savez, hein, c'était sur toutes les télés du monde. Mais j'ai eu le privilège d'assister à plusieurs matchs de foot dans le stade de Durban avec Jérémy et Benjamin parce que de nulle part, on m'avait appelé pour me dire « Bruno, est-ce que ça te dirait d'être le chauffeur du staff du Brésil, l'équipe du Brésil, l'équipe de foot du Brésil ?» J'ai dit « C'est une blague ». Non, non, monsieur Taffarel en personne, pour ceux qui sont des fouteux, Taffarel est l'ancien gardien de but de l'équipe de Brésil qui s'est pris 3-0 contre la France en Coupe du Monde de football. C'était bon ça. Mais c'est un Taffarel. Et on m'a appelé pour me dire si je pouvais donc les conduire. Et on s'est retrouvés à conduire Taffarel, Jorginho et d'autres personnes directement du stade à l'aéroport, de l'aéroport au stade. Et puis un soir, à l'après-midi, j'appelle, elle dit vers quoi, 2 heures, j'ai dit chérie, au fait, ce soir, il y a Taffarel qui vient manger à la maison. Elle me dit, c'est qui Taffarel? Et Joël qui est avec moi, Joël il devient fou, parce qu'il dit Taffarel chez toi. Enfin, elle dit, mais c'est qui Taffarel? Je dis, ben c'est l'ancien gardien de l'équipe du Brésil. Et là, quoi? Je lui dis, mais ça va pas ou quoi? Mais tu es fou, quoi, comment je vais faire ça? Et il faut qu'elle fasse à manger pour Taffarel. Chérie, il a une bouche, 2 oreilles, un corps comme nous, il mange comme nous. Hein. Elle m'a dit, non, c'est vrai, d'accord, c'est vrai. Et puis on l'a reçu chez nous. Et j'étais donc dans le stade avec Jérémy, mon petit frère. Stade magnifique de Durban, superbe stade, avec les vuvuzelas qui font un vacarme de folie. Un vuvuzela à côté de toi, c'est presque aussi fort qu'une F1 qui passe à 100 mètres de toi. Il fallait avoir des boules caisses. Sérieusement, à ce moment, tu faisais. Parce qu'en fait, tu ne m'entendais rien. Pas peine de crier, et t'as mon vuvuzela. Et j'étais dans ce stade-là. Et au moment où je suis dans le stade, j'ai eu comme une révélation. Dieu m'a parlé et il m'a encouragé. Et il m'a dit la chose suivante. Il m'a dit, Bruno, regarde le nombre de spectateurs dans le stade ce jour-là. Plus de 60 000 spectateurs, tous fous. Les plus fous étaient les Coréens et les Brésiliens. Eux, fou, les gars sont totalement... Ils sont fous. Hein. Ils se peignent de la tête jusqu'aux pieds. Ils font des trucs de folie. Il me dit, mais regarde le nombre de spectateurs dans le stade. Il me dit, 60 000 spectateurs, sans compter les millions qui regardent sur la télévision, pour voir 22 joueurs et 4 arbitres. 3 arbitres et un rechange, d'accord? Et je dis, waouh! Il me dit, tu sais, écoutez bien ça, c'est un impact de Dieu. Il m'a dit, Bruno, voilà le problème. Dans la vie, il y aura toujours plus de spectateurs que de joueurs. Et le problème dans la vie chrétienne, c'est que tu ne peux pas être un chrétien spectateur. Ça n'existe pas. Et ma question ce matin, c'est est-ce que tu es un spectateur spirituel? Tu sais, le spectateur, moi j'aime beaucoup ça. À Marseille, vous savez, en France, dans le monde du foot par exemple, il y a Marseille contre Paris. Qui pour Paris ici? Aïe, aïe, aïe. Qui pour Marseille? Ah bah oui, alors là, oh là 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 là. Il y a cette guerre. Un jour, j'étais avec Steve à Paris. On sort du métro, je crois, on va dans le métro, je ne sais plus très bien, on est sur un trottoir. Et il faisait froid. Et Steve, lui, ce petit créole qu'il est à Paris avec moi, de petit créole à Paris, Steve, il fait « Chauffe Marcel, chauffe Marcel !» Il a dit « Chauffe Marcel !» Un gars côté de nous a croyé qu'il disait « Chauffe Marseille !» T'as dit quoi, là ? Je lui dis bah, « Chauffe Marcel, hein, c'est quoi le problème ?» Parce que là-bas, si tu dis « Vive Marseille !» en plein Paris, t'es fini. Hein. Autant te dire « Tu es moi », c'est pareil. Et j'étais donc dans... Je suis fasciné quand je vois ces supporters. Ils ont les maillots de l'équipe. Ils ont le bandeau de l'équipe. Le short de l'équipe. Les chaussettes de l'équipe. Le pins de l'équipe. Ils regardent tous les matchs. Ils enregistrent tout. Ils crient. Ils sont dans l'équipe. C'est eux l'équipe. J'écoute le gars. C'est lui qui joue la place du gars, quoi. Mais fais la passe, quoi. Mais si j'étais lui, j'aurais fait la passe comme ça. Le gars, il plane là. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Et là, le spectateur, lui, franchement, il y va à fond. Il est dans son match. C'est pas son match, hein. Il est dans son match. Mais c'est pas son match. Mais il est quand même dans son match. Tu vois ce que je veux dire? Et il est là, il regarde la télévision. Allez, l'OM! Allez, l'OM! Et comme dans le film, là, bref. Et donc, il y a ce côté-là du spectateur que j'aime beaucoup. C'est super, parce que s'il y a du fun, il y a de la joie, il y a du punch, il y a, ouais, tout le monde crie, c'est génial. Et c'est bien d'avoir les spectateurs. Quand j'ai fait une course il y a 3 semaines de cela, j'étais content de voir plein de gens avant, plein de gens après. Ils crient, t'encouragent, ils te connaissent pas, ils te disent, vas-y, fonce, abandonne pas. C'est génial. C'est bien d'avoir les spectateurs. Mais le problème, c'est que le spectateur, lui, il est spectateur, il n'arrive pas à vivre vraiment ce que Dieu a pour lui. Et ramener ça dans le contexte de l'église, si l'église reste une église de spectateurs, on ne peut pas faire un match, on ne peut pas faire une course, on ne peut pas avoir un impact, mais non. Le spectateur, lui, il a une caractéristique bien précise, écoutez bien ça. Le spectateur commente. Le spectateur commente tout ce qu'il voit. Ouais, tu vois, lui, il est comme ça. Oui, tu vois, lui, s'il courait plus vite. Oui, tu vois, lui, s'il faisait la passe. Tu sais, elle, franchement, c'est n'importe quoi ce qu'elle fait. Voilà, elle est enceinte. Elle a que 16 ans, c'est n'importe quoi. Elle a 16 ans, elle est enceinte. Seulement que tu sais pas qu'elle a été violée à l'âge de 15 ans. Oui, mais tu sais, lui, il est trop gros. Lui, il est trop mince. Tu sais pas que lui, il a eu une maladie génétique. Ouais, mais, et le spectateur commente. Et le danger de l'église, c'est quand l'église commente. Elle commente la vie, elle commente ce qui se passe dans le monde. Elle commente. Mais tu n'es pas appelé à commenter, tu es appelé à participer, à jouer. L'église n'est pas appelée à commenter la vie des autres, l'église est appelée à donner la vie aux autres. Et quand il n'y a rien de pire qu'être un spectateur toute sa vie, parce que tu es frustré en ce moment. Moi, quand je me suis rendu compte dernièrement que j'ai toujours regardé les courses. J'adore l'athlétisme à la base. J'aime les courses. Je suis fasciné par la puissance des gars. Quand j'ai pu apercevoir des images du Grand Raid il y a un an ou deux de ça, j'étais fasciné pour voir quand j'ai pensé au gars qui court, surtout Kylian Jornet. Le gars, c'est un monstre. J'étais fasciné par ça. Mais quand j'ai commencé à courir, j'ai compris bien plus de choses que simplement regarder quelqu'un courir ou taper dans un ballon. Alors bien sûr, on peut pas faire tout, d'accord. Mais ce matin, j'aimerais vous encourager à penser au mot persistance. Que le mot persistance va reposer sur le fait que vous et moi, nous sommes dans une course. Je ne suis pas appelé à être un spectateur spirituel, mais un athlète spirituel. Tout le monde dit athlète, pas squelette, ni omelette. Un athlète. Tout le monde dit athlète. Regarde ton voisin, dis, est-ce que tu es un athlète spirituel, sinon vous allez avoir des gros noms. Il est facile de commenter la vie des autres. Mais est-ce que toi, tu cours la course que Dieu a pour toi? Et dans Hébreux 12, au verset 1, la parole de Dieu dit, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance. » Tout le monde dit persévérance. Et le mot grec ici, c'est persévérance, persistance, endurance. Et courons avec endurance, persévérance, persistance dans la carrière qui nous est ouverte. La parole de Dieu au verset 2, « Ayant les regards sur Jésus, le chef, et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée. » Quand je cours, je m'imagine la joie qui m'est réservée. Je m'imagine la joie, non pas de gagner contre Fabrice, un jour, oui. Un jour, Fabrice, je te battrai. Yes. Seigneur, s'il te plaît, semaine prochaine. Alors, mais la joie que j'ai, c'est quand je vois que je suis de mieux en mieux, plus grande forme. La joie qui m'est réservée, pendant le cas de Christ, la joie qui était réservée, c'est vous et moi. D'accord? Dans mon cas, à moi, aujourd'hui, en tant que pasteur, en tant que chrétien, la joie qui m'est réservée, c'est de voir que la Réunion sera sauvée. La joie qui m'est réservée, c'est de voir que la France peut être sauvée et sera sauvée. Et la Bible dit ici, mépriser l'ignominie, il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Dans 1 Corinthiens, chapitre 9, la parole de Dieu dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, tout le monde court, hein, mais qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à remporter le prix. Il n'y a rien de pire que d'avoir un chrétien spectateur qui se prend pour un coureur mais qui ne court pas. Il n'y a rien de pire que d'avoir une église qui commente les matchs, qui commente les images, qui commente la vie des autres, mais qui ne se donne pas pour donner la vie. Si tu vois quelqu'un qui est un SDF, quelqu'un qui n'a pas à manger, ne commente pas sa vie, ne dis pas mince, il n'a pas à manger, va le voir, assieds-toi avec lui, donne-lui à manger, donne-lui ton t-shirt, donne-lui ce que tu as, partage un bout de moment de vie avec lui, donne-lui la vie, car l'église n'est pas appelée à commenter la vie, l'église est appelée à donner la vie. C'est ça la base de ma vie. Et quand je lis ce passage, Paul dit cours pour remporter la course. Alors ce qui est beau dans la course chrétienne, c'est que nous ne sommes pas en compétition les uns avec les autres. Ce qui est beau dans la course chrétienne, c'est que je suis en compétition avec les standards que Dieu a mis dans ma vie. Par exemple, Dieu m'a dit, Bruno, un jour, tu prêcheras la parole de Dieu à des centaines de millions de gens. C'est magnifique, c'est super, ça me fait flipper aussi. Je dis, waouh, Seigneur, comment je vais faire ça? Mais ma question, c'est savoir, ne pas savoir est-ce que c'est vrai ou faux. Je sais que c'est vrai. Ma question, c'est comment je vais faire ça? Vous savez ce que je fais? Je m'entraîne. Depuis le jour où, sincèrement, dans mon cœur, Dieu m'a dit, Bruno, mets-toi à courir, parce que je vais te connecter au monde. Franchement, frère et sœur, j'avais pas envie de courir. D'abord, je trouvais ça bête. Sérieusement. Courir, parce que j'ai dit, Seigneur, tu cours et tu vas où? Après, je dis, Seigneur, si je cours, moi qui suis mince, pas maigre, mince. Si je cours, je vais perdre ce qui me reste. Je vais disparaître. On va m'appeler l'homme invisible. Je veux pas. Je veux pas, Seigneur, si je cours. Seigneur, j'ai dit, Seigneur, les gens qui courent sont ceux qui veulent perdre du poids. Tous les magazines de jogging ne disent jamais courir pour prendre du poids. J'ai jamais vu ça pour l'instant. Ils disent courir pour perdre du poids. Dans mon cas, j'ai pris un peu de kilos parce que plus je cours, plus j'ai faim. Ça tombe bien. Mais j'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux faire? Il m'a dit, Bruno, cours et je vais te connecter au monde. Donc j'ai commencé à courir. Et de fil en aiguille, j'ai dit, d'accord, il me faut une course. Que moi, si je fais juste pour courir, je vais pas être motivé. Il me faut une course. Et mon ami Fabrice m'a dit, bah tiens, essaye Mascareigne. Je crois que c'était la course qui était reliée à Mascarenas, tu sais, ce truc-là, mais c'est pas ça du tout. Rien à voir avec ça. Et quand j'ai vu le graphe dernièrement, j'ai vu 60 km, c'est ça? Et j'ai vu plein de petits montées comme ça. Je dis, Seigneur, comment je vais faire ça? Et donc, j'ai un but. Je veux courir pour finir la course. Je veux courir pour arriver jusqu'au bout avec mes deux jambes, mes deux pieds, mes deux chevilles, mes deux genoux et tout le reste dans mon corps. Et qu'est-ce que je fais d'après vous? Je m'entraîne. Je commence à penser comme un coureur. Voilà ce qui suit verset 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, écoutez bien ça, je cours non pas à l'aventure, au hasard. Je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps. Je ne mange pas de porc. Ça, ce n'est pas dans la version biblique, bien sûr. Hier soir, ma maman et mon papa ont failli me faire tomber. Parce qu'elle me dit, passer chez eux. Et maman elle fait des breads, ça c'est bon, je prends. Et puis des côtes de porc. Mamma mia. Ça sentait bon. Mais j'ai repensé au verset. Je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti, soumis, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Ce que Paul veut dire ici, et le parallèle que je vais mettre avec vous ce matin rapidement, mais simplement, et j'aimerais vous encourager à bien réfléchir à cela. Vous et moi, que vous le vouliez ou non, nous sommes dans une course. Alors ce matin, je peux puiser un petit peu de ma petite expérience de coureur pour vous dire que quand tu veux courir et tu veux courir bien, il faut que tu t'abstiennes de plusieurs types d'aliments. Il faut que tu choisisses différents types d'aliments. Elodie qui me connaît bien, il y a encore 6 mois, je ne mangeais pas de salade, j'étais pas un lapin. J'aimais pas la salade. Franchement, quand on me disait, ce soir, soupe et salade, je faisais une tête. Je me dis, et il y a quoi après avec ça? Il fallait de la viande, du riz, des grains, gâteau manioc et piment confit. Il fallait qu'il y ait de la consistance. Aujourd'hui, s'il y a de la salade, je vais choisir d'abord la salade et si j'ai encore faim, un petit peu de viande. Au grand désespoir de Steve. Je traite mon corps parce que je me suis rendu compte un jour, je commence à progresser et j'étais content de ma vitesse, entre guillemets, j'étais content. Et à midi, je venais manger chez Momo. Elle avait fait un bon curry et j'ai bien mangé. Le soir même, je suis allé courir. J'ai fait la moitié du parcours. J'avais mal aux jambes, j'avais plus de cœur, mon cœur était devenu dans mon coude, j'ai plus rien. J'étais fatigué, j'ai transpiré, j'ai dit mais c'est pas possible, hier je cours bien, aujourd'hui je cours la moitié, je suis malade. Et je me suis rappelé ce que Fabrice m'a dit, attention à ce que tu manges. Donc bien sûr vous allez me dire que là je parle d'une course, oui d'accord, mais je vous parle de la vie spirituelle, la vie chrétienne. Pensez à ça. Si tu fais n'importe quoi, tu peux pas aspirer à être performant et efficace dans ta vie chrétienne. Si par exemple, tu sais que tu n'as pas le droit de manger par exemple du gras par exemple, eh ben ne t'approche pas trop des plats qui sont pleins de gras. Évite ça, tu ne seras pas tenté, c'est pareil dans la vie spirituelle. Si tu sais que ce n'est pas bien pour toi, ce n'est pas bon pour toi, ce n'est pas quelque chose qu'un homme va t'obliger à faire, c'est toi, ton cœur, ta vie, ta course avec Dieu, tu veux lui plaire, tu veux faire ta destinée, tu veux faire son plan, tu vas arriver jusqu'à la fin. Eh bien, la première règle ce matin, c'est pense à ce que tu fais rentrer en toi. La parole de Dieu. Pense à la prière, pense à la louange, pense à l'adoration. Mais alors franchement, moi j'aime, je suis cinéphile, j'adore le cinéma, j'aime vraiment le cinéma. Et j'ai lu hier une étude scientifique australienne. Et cette étude-là disait que lorsqu'on regarde la télévision pendant une heure, tu enlèves à ton espérance de vie 22 minutes. À chaque fois que tu regardes une heure, tu vas vivre 22 minutes en moins. Pour savoir, pour comparer, quand tu fumes une cigarette, une Marlboro, une cigarette, eh ben tu enlèves à ta vie 11 minutes. Et donc, quand tu regardes une heure de télévision, c'est comme si tu avais fumé deux cigarettes. Ça a la même conséquence sur ta vie, ça a la raccourci de plusieurs minutes. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut être mystique et sectaire, pas du tout, vous me connaissez, non. Je voudrais me rendre compte que bien souvent, nous faisons des choses, écoutez bien ça, qui nous alourdissent, qui nous gênent, sans se rendre compte, et on n'est pas performant, après on est frustré. On dit, mais mince, pourquoi je n'arrive pas à courir aujourd'hui avec Dieu? J'arrive pas à avancer, j'arrive pas à aller de l'avant, j'arrive pas à aller plus haut, j'arrive pas, parce que peut-être que tu as mis le mauvais carburant en toi. Mon coach m'a fait un briefing là-dessus, il m'a dit, Bruno, c'est très simple, il faut que tu fasses attention à ton carburant. Et avant la course de Sillaos, il y a 3 semaines, 1 mois, il m'avait briefé, il m'a dit, fais pas ci, fais pas ça, mange ci, prends ça, repose pendant 1 semaine, bois de l'eau, mange pas de gras, enfin, tu sais, et j'ai tout fait comme un bon petit garçon à l'école. La veille de la course. Il y avait une table sur laquelle il y avait un réchauffé pimenté. Et j'ai tombé et... Les gars, j'ai pris la boule de riz, j'ai mis 2-3 boulettes. Et mes copains m'ont dit, tu devrais pas faire ça, hein. C'est pas bon. Moi, j'ai dit, non, t'inquiète pas, je gère. J'ai dit, t'inquiète pas, ça va aller, j'ai un petit peu goûté. Et Elodie me dit, chérie, écoute ce qu'ils te disent. Il y a Fabrice, il y a Stéphane qui me dit, Bruno, ça, ta place. Moi, je fais, les gars, c'est bon, je gère. Les gars, j'ai fini la course comme ça. Je vous promets, j'ai les photos. Fabrice est revenu me chercher pour m'aider à monter parce que je ne pouvais plus, je ne gagne plus, j'en ai marre. Simplement parce que je n'avais pas mis le bon carburant. Dans la vie chrétienne, ce matin, beaucoup d'entre vous, peut-être, vous boitez comme ça. Vous voulez courir, mais vous boitez avec Dieu. Vous êtes comme ça, votre vie est difficile parce que peut-être vous ne mettez pas dans votre cœur le bon carburant. Peut-être que dans vos pensées, vous ne les remplissez pas du bon carburant. Bien sûr la parole de Dieu, bien sûr la prière, bien sûr les bonnes relations. Moi j'aime parler avec des gens qui m'inspirent. Ils me partagent leur cœur, leur vie et ils m'inspirent, je mets du bon carburant. Alors pour être un athlète spirituel, il faut d'abord se traiter son cœur, son corps, son âme avec sérieux. Il faut vraiment faire attention à ce que vous faites dans votre vie. Vous pouvez pas juste dire, voilà, je veux être performant dans ma vie chrétienne et ne pas faire attention au carburant. Tout le monde dit carburant. Deuxième point rapidement, ce matin, c'est dans 2 Timothée 2:5 qui dit « Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. » Alors, facile à connaître, hein, c'est fastoche. Aujourd'hui, on a beaucoup de reportages sur le dopage, sur les choses que les gens font pour tricher. D'accord, c'est pas ce qu'on veut faire, mais combien d'entre vous, vous savez que la vie chrétienne est soumise à des règles? Et en parlant, les règles sont importantes parce que les règles vous donnent la vraie liberté. S'il n'y a pas de règles, il n'y a pas de liberté. Quand tu prends ta voiture et que tu roules sur la route, s'il n'y avait pas de feu, s'il n'y avait pas de ligne blanche, pas de panneau, eh ben, tu n'aurais aucune liberté. Parce que ta liberté se transformerait en accident. Imagine que tu roules sur la même route avec plusieurs centaines d'automobilistes. Il n'y a aucun panneau, aucun feu, aucune ligne, aucune règle. Vous finiriez tous à l'hôpital, dans les meilleurs des cas, ou à la morgue. Donc les règles permettent le maintien et la jouissance d'une liberté. Quand tu sais, par exemple, Elodie et moi, nous sommes mariés, je l'aime et elle est folle de moi. Bah, c'est elle qui le dit, hein. Et nous sommes ensemble et elle peut être tentée tous les jours par quelques gars, quelques hommes, peut-être certains, ça arrive, c'est rare, ça, plus beau que moi, ça arrive. Par exemple, quand elle a vu Camille, le nageur français, le gars est beau. Toutes les femmes vont dire, ah ouais. Bon, il est très beau. Alors, qu'est-ce qui l'empêcherait de tomber? Parce qu'elle est libre. Qu'est-ce qui m'empêcherait si demain je vois, je sais pas, une femme belle, de tomber? Ce sont des règles, des principes bibliques. C'est pas simplement l'amour fou qu'on a l'un pour l'autre, parce que malheureusement, parfois, ça ne suffit pas. Oh là. Est-ce que vous aimez Dieu? Passionnément? Donc vous ne tombez jamais. L'amour ne suffit pas pour ne pas commettre des erreurs. L'amour pardonne dans les erreurs. Ce sont les règles et les principes que vous respectez qui vont nous protéger. Une règle qu'on a mis entre Elodie et moi, c'est qu'on se parle librement de tout cela. Avant, j'étais très jaloux. Les gars, avant, j'étais fou. À mon plus grand désespoir. Aujourd'hui, je ne suis plus jaloux. Aujourd'hui, ça me fait sourire. Parfois, je regarde les gens, je dis, bon, bah, tu me fais rire. Parfois, c'est moi qui lui fais rire. Mais on est ensemble et on a des règles. Par exemple, on s'est dit, chérie, tu me corriges, j'ai tort. On s'est dit, voilà, on va tout se dire. Et quand Elodie trouve un gars beau, eh ben, elle le dit. Elle n'a pas peur de le dire, c'est que si elle a peur de le dire, elle devient fausse. Si elle devient fausse, notre relation est mauvaise. La règle, c'est qu'on se protège mutuellement. On est libre, mais on se protège. Parce qu'on ne comprend pas. La vie chrétienne, c'est dans tous ces petits paramètres-là. Quand vous ne mettez pas en pratique les règles spirituelles, vous ne pouvez pas obtenir la couronne. Vous ne serez pas couronné parce que, bien entendu, dans un combat, dans une course, il y a des règles à respecter pour atteindre le but. Dans mon cas, avec ma femme, c'est l'alliance. J'ai une alliance. L'alliance, c'est une règle. Je ne viole pas l'alliance. Je ne sors pas de l'alliance. Je ne trompe pas ma femme. Je ne pense pas à notre femme de façon mauvaise. Si une femme est belle, je dis, waouh, gloire à Dieu, elle est belle, et je tourne mon regard. Parce que j'aime ma femme et parce que j'ai la règle de l'alliance, parce que Dieu me l'a confiée en alliance, nous sommes mariés, c'est une règle. Je suis libre, mais je respecte les règles. On me suit ? Malheureusement, quand on est chrétien et qu'on ne respecte pas les règles, on perd cette puissance du chrétien. On n'est plus un athlète spirituel. Écoutez bien cela. Cet homme-là a dit, c'est un inconnu, je ne sais pas son nom, mais il a dit, la victoire est une habitude, l'échec en est une également. Tu peux t'habituer à la victoire comme tu peux t'habituer à l'échec. Et mon cœur, ce matin, c'est de vous dire, frères et sœurs, allons nous habituer à la victoire. Quand tu cours et que tu traites ta vie sévèrement, pas dans le sens mystique, le sens sectaire du Seigneur, je fais attention à ce qui rentre dans mon cœur. Deuxième point, Seigneur, je cours selon les règles. Je fais attention aux règles, je fais attention à ma femme, ma famille, mais les principes de la parole de Dieu, les principes de la Bible. Je fais attention à cela. Et du coup, tu es libre, tu es heureux, tu es toi-même, tu es épanoui, tu comme dit les gars, tu gambades. Mais tu es respectueux des règles. La victoire est une habitude, l'échec en est une également. Je vais pas être très long ce matin, mais j'aimerais vous dire juste trois définitions et après je poserai trois, quatre questions importantes. Écoutez bien ça. La persistance est l'action de persister, donc d'avoir de l'obstination. C'est avoir une continuité ferme ou obstinée dans une course d'action malgré la difficulté ou l'opposition. Quand tu montes par exemple la montée du Maïdo, c'est dur. Pour moi, le Maïdo, c'est l'une des montées les plus dures que j'ai faites de ma courte vie de coureur. Maïdo, tu souffres. Il faut de la persistance, de la persévérance. Le pire, quand tu montes le Maïdo, c'est que tu sais que tu ne peux pas descendre. Parce que si tu descends, tu sais qu'il faudra remonter de toute façon. Donc, tu es cuit. Il faut que tu montes. La persistance, on dit persistance. La persévérance, c'est être ferme dans le fait de faire quelque chose malgré la difficulté ou le retard de la réalisation du succès attendu. La persévérance. Quand tu fais quelque chose pour Dieu dans une course, tu as un mariage, tu as une famille, tu as une entreprise, tu as une équipe de foot, tu cours, bref, quoi que tu fasses pour Dieu ou avec Dieu ou au travers de Dieu ou avec lui ou il fait au travers de toi, tes projets, il te faut de la persévérance. Tu te rends compte que c'est difficile ou que le résultat se fait attendre, ne baisse pas les bras, persévère et continue mon ami. Si tu t'arrêtes trop tôt, tu t'arrêtes trop tôt. Ouh, c'est fort ça. L'endurance est le fait ou la puissance de supporter un processus difficile ou une situation désagréable sans abandonner. Le problème, c'est que lorsque nous abandonnons toujours trop tôt. Ne jamais abandonner. Jamais, 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 jamais. Alors, es-tu ce matin en mode grande forme? Est-ce que tu es en grande forme spirituelle? Et ça se voit par la joie que tu dégages, par la paix, l'amour, le pardon que tu dégages. Ça se voit parce que tu as envie de croquer la vie à pleines dents. Tu as envie d'aimer les gens, tu as envie de partager l'évangile de Christ. Tu vas au ciel, mais en même temps, tu emmènes le ciel sur la terre. Ça signifie que tu es en grande forme. Tu es en grande forme, tu te lèves le matin, tu regardes ton miroir, tu fais, ce miroir-là est beau ce moment. Tu es heureux. Ou est-ce que tu es en mode ralentissement? Ça arrive dans une course que tu peux pas aller de l'avant tout le temps, enfin Tu es là, tu ralentis un peu parce que c'est dur. Prends ton souffle. C'est pas grave, ça arrive. Le mode ralentissement, c'est lorsque tu es fatigué, tu es à un carrefour de ta vie, tu ralentis, tu abordes un virage, tu ralentis. C'est normal. Mais je veux t'encourager ce matin à identifier là où tu es dans la course dans laquelle tu te trouves. Est-ce que tu es en mode croisière? Mode croisière, c'est un mode où tu as déconnecté tout. Tu penses plus à ce que tu fais, tu penses plus vraiment à ce que Dieu veut que tu fasses. Tu penses plus vraiment à tes talents, tes dons. Tu es en mode croisière, c'est Seigneur. De toute façon, advienne que pourra. Je me lève le matin, je vais au lit le soir. Le mode croisière, c'est tout est cool, Raoul. Il n'y a pas de gros problèmes, pas de gros stress. Je suis en mode croisière. C'est pas mal, mais c'est pas l'idéal. Moi, je préfère le mode grande forme. Parce que le mode croisière, tu sais pas ce que tu fais. Et c'est ce qui cause l'indifférence chez les chrétiens. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont en mode croisière. Le mode croisière, c'est le mode le plus dangereux pour un chrétien. C'est le mode d'indifférence. C'est le mode de tiédeur spirituelle. C'est le mode où tu es chrétien, mais en fin de compte, tu n'as pas la puissance, le feu, le zèle, la passion que tu devrais avoir. Et quand vous lirez chez vous Apocalypse, chapitre 2, vous allez voir, et 3, vous allez voir que Dieu parle à l'église d'Éphèse. Il parle à l'église de Laodicée. Et il dit, j'aurais aimé que vous soyez bouillant ou froid, mais pas tiède. Le compromis rentre parce que tu es en croisière. En croisière, tu es trop cool, trop relax. Est-ce que tu es en mode arrêt complet? Le mode où tu t'arrêtes. T'as pas encore abandonné, hein. Tu t'arrêtes. T'es là, tu fais, faut que je respire, je peux plus, là. J'en ai marre. J'ai plus de patates, comme on dit. J'ai plus de puissance. J'ai plus de joie. J'ai plus d'onction dans la prière. J'ai plus envie de me battre. Je suis là. J'ai pas encore abandonné. Je viens toujours à l'église. Mais je suis en mode arrêt. Arrêt complet. Arrêt total. Certains, quand je priais ce matin pour vous, Dieu m'a dit, certains dans mon peuple, ils sont en mode arrêt. Et qu'en fait, vous venez, il y a que l'enveloppe que je vois ce matin. Mais il y a pas le cœur, il y a pas l'esprit, il y a plus rien. Assis sur une chaise. Et je vous encourage à ne pas être comme ça, à vous dire non, je ne veux pas être dans ce mode-là. Le dernier mode, qui est le mode le plus grave, c'est le mode découragement, bien sûr. C'est quand tu as laissé, vous savez, t'es en grande forme, tu ralentis, et là tu commences à venir en mode de croisière, et là après t'as le mode arrêt complet, et là tu te dis après tout pourquoi continuer, ça sert à rien, ça, c'est nul, je m'arrête, et tu abandonnes. Et de nombreux chrétiens font ça, ils abandonnent. Et c'est là où j'aimerais venir, en venir rapidement, et c'est pas sur mes notes ce matin, mais je vais finir avec ça, mais il est toujours trop tôt pour abandonner. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il faut toujours des gens, des hommes et des femmes qui viennent nous aider lorsqu'on est sur le point d'abandonner. Et vous, l'Église, et moi, et toi et moi, on est appelés à aider les gens qui veulent abandonner. Cette semaine, Steph, j'ai eu un coup de téléphone. Non, j'ai vu un frère qui m'a dit que un homme qui avait quitté l'Église au Hosanna il y a des mois de cela. Bon, il n'est pas vraiment, je dirais, dangereux, mais c'est un homme qui était à l'église et qui est venu voir un frère ici et a dit « Est-ce que je peux revenir ? Est-ce que je peux revenir, s'il te plaît ?» Et sur le coup, j'avais envie de dire « Attends, on va réfléchir, attends, on va voir pourquoi. » Tu sais, ce côté où... Et là, Dieu m'a dit « Non, là, c'est bon. Il peut revenir. Au contraire, aide-le, entoure-le, fortifie-le, encourage-le. » Parce que Dieu m'a dit « Si vous ne l'aidez pas, il peut perdre son salut. » Et je me suis dit « Seigneur, le nombre de fois... on n'a pas été lucide et clair sur le sujet. On n'a pas été attentif. Écoutez bien cela. Aux différents modes des chrétiens. Est-ce que tu es en mode grande forme? Gloire à Dieu, fonce, encourage les autres. Est-ce que tu es en mode découragement? Est-ce que tu es en mode de ralentissement? Si vous et moi, nous sommes sensibles à cela, on peut s'aider mutuellement. Quand j'étais en course, j'oublierai jamais ce moment que j'ai vécu qui m'a encouragé et qui m'a édifié pour ma vie chrétienne. J'étais en descente et j'avais extrêmement mal, mais extrêmement mal. C'était extrêmement douloureux. J'avais envie d'appeler un hélicoptère pour venir m'élitroyer. Mais je me connais, j'avais pas envie d'abandonner. Je vais pas abandonner, même s'il faut que je prenne 10 jours. Instamment, je me suis dit, même si la course est finie, j'arriverai demain matin s'il faut, mais je finirai. Et il y a une fille qui me dépasse. Déjà ça m'énerve. Mais... ça m'énerve vraiment. Quand la fille m'a dépassé, elle m'a fait « Ah, ben, ça va pas ?» Elle m'a dit « Si, ça va très bien. Ça va très bien. Vas-y, passe ton chemin. Je te rejoindrai après. » Mais non, là, ça va pas du tout. Elle va mon regard, elle fait « Oh là là, t'es pas bien, toi. » Et je suis comme ça, et je marche comme ça. Je fais « Ben non, pas trop. » Elle s'appelait Émilie. Elle me fait « Ben, ça tombe bien, je suis kiné. » Je fais « Gloire à Dieu, mais si c'était un kiné gars, ça serait plus facile. À kiné fille. » Mais bon, c'est pas grave. Là, elle fait « T'inquiète pas, je vais voir ce qui se passe. Mets ton pied comme ça et tire-toi. » Je me tiens, me dis bon. Là, c'est le TFL, le PSOAS, le TFL est touché, le PSOAS est touché. J'ai fait, raconte pas ton chinois, dis-moi ce qui se passe. Il m'a dit, c'est le TFL qui est touché, qui a après enflammé le PSOAS droit, qui va aussi enflammer le PSOAS gauche, parce que tu marches comme ça. Je fais, mon Dieu, c'est quoi tout le charabia, là? Et elle me dit, bon, j'ai une bonne nouvelle. Je dis, ah, c'est quoi? C'est pas trop grave. Je dis, oh, cool. Par contre, j'ai une mauvaise nouvelle. Je faisais quoi? Tu vas souffrir jusqu'à la fin. Ah bon, merci d'encouragement. Je dis, bon, ça peut t'aider, j'ai du Voltaren. Elle me dit qu'elle a une pommade, tu la passes sur ton genou, tu la passes ici, partout, et là où tu peux. Et puis, ben, écoute, bonne chance. Hein. Elle me dit, tu veux qu'on avec toi, mes copains, mes copines, on sait toi ou ça va aller? Je dis, non, ben, les gars, ben, faites votre course, c'est super. Allez-y, quoi. On se retrouvera. On se retrouvera, ok. Et là, elle part comme ça. Et là, je suis dégoûté. Hein. Là, je suis dégoûté parce que j'ai envie d'abandonner. Je suis pas en mode ralentissement, je suis en mode arrêt. Et à un moment, la descente que j'aime bien en général, j'aime bien la descente, j'aime bien gambader dans la descente. Là, j'étais comme ça. J'entends une petite carte sur l'épaule. Ça va? Ça va? Ça va? Et je compte. 1, 12. J'ai arrêté de compter après 100. Et au moins 100 personnes qui m'ont dépassé d'un coup. Et là, j'étais pas bon. Le pire du pire, là où j'ai touché le fond. Là, je me suis assis sur une roche. J'arrête un instant. C'est quand, excusez de l'expression, une grand-mère. Mais une grand-mère. Marchait comme ça. Elle m'a dépassé d'une force. Cela dit, j'étais en mode arrêt aussi, arrêt complet sur une roche. Quand elle m'a dépassé, elle n'a pas eu le temps de me dire ça va, j'ai fait ça va très bien, je me lève. Et j'ai marché comme ça. Franchement, parce que je ne pouvais plus poser ma jambe, j'étais comme ça. Ça va très bien. Elle me fait, ah, on a tous eu ça. T'inquiète pas, ça va passer avec l'âge. Et puis elle est partie. Et là... Et là, je fais, là, mon orgueil est en train de goûter. J'ai dit, Seigneur, sûrement, je suis encore trop orgueilleux. Je suis encore trop orgueilleux. Et là, il m'a dit, ce sont les orgueilleux qui abandonnent.
Là, j'ai pas compris. Le Seigneur, en général, ce sont les orgueilleux qui n'abandonnent pas. Et non, ce sont les courageux qui n'abandonnent pas. Les orgueilleux abandonnent. Ah, je dis, attends, faut que tu m'expliques. C'est parce qu'un orgueilleux, il a tellement pas envie de se taper la honte qu'il préfère faire comme s'il était mort. Et je vous rappelle que l'idée n'a pas seulement traversé mon esprit, elle a fait une halte pendant un bon quart d'heure. Et là, toutes les excuses passent. Tu devrais abandonner. Abandonne, ça sert à rien, t'es en train de te faire honte là. Ouais, bien Salomon, bien Salomon, t'es nul comme un... Et là, tu entends ça. Au moment où je marchais, il rigole, je me suis dit, la prochaine fois que je cours en short de paille, t-shirt de paille, savate de doigts. Comme ça, si j'arrive bien, je suis content. Parce que là, je t'habille avec casquette Salomon, t-shirt Salomon, short Salomon, chaussette Salomon, slip Salomon. Tout Salomon, et en fin de compte, c'est devenu seul au monde. Et seul au monde. Dieu m'a dit, c'est un orgueilleux qui abandonne. J'ai dit, pourquoi ? Il me dit, explique-moi. Il me dit, parce que le courageux, c'est celui qui s'appuie sur moi. L'orgueilleux, c'est celui qui a dit, j'ai trop d'orgueil, j'abandonne, tu n'es pas assez grand pour moi, Seigneur, tu n'es pas assez fort pour moi, Dieu, même ton aide ne pourra rien changer, je ne continue pas, c'est trop dur, mon mari, ma femme, la France, les dettes, les impôts, le voisin, le chien, le chat, toutes les excuses, Dieu n'est pas assez grand, j'abandonne, c'est un orgueilleux qui abandonne. Mais Dieu m'a dit, tu n'es pas orgueilleux, tu es courageux, tu t'appuies sur ma force, je t'enverrai des gens qui vont t'aider. Et là, tout d'un coup, il y a un groupe de gars qui étaient parmi les derniers, t'imagines, les derniers étaient... franchement... Mais ce groupe-là, ils n'avaient plus rien à perdre, ils étaient derniers. Et ils m'ont accompagné. Tu veux une prune, tu veux une banane, tu veux une orange, le gars c'était un marché ambulant. J'ai dit... Donne un peu quand même, c'était super. L'ambiance a été géniale. Le gars, il voulait vendre ses fruits et légumes sur le marché ambulant, c'était lui quoi. Le gars avait un sac de moins de 10 kilos, Boris. 10 kilos, on était au moins 11, 12. Il était là. Tu veux une pomme, une banane, tu veux une orange. J'ai fait, le gars, fruits secs ici. Il y avait 3, 4 bouteilles là. J'ai fait, on dirait Steve. Quand le pasteur Steve est avec nous en sortie, les gars. Le gars, un jour, on était, je sais plus quel coin on était, hein, je me souviens plus. Sur un piton de l'eau, piton bleu. À Réunion, c'est ou bien piton, bien la plaine, hein. C'est piton ou plaine, c'est un des deux. C'est un des pitons de la Réunion. Il y a une magnifique vue. Steph s'assoit. Le sac est gros comme ça. T'entends, zzzz, il ouvre son sac. Il fait, qui veut des cacahuètes fumées au je sais pas quoi? Alors on dit, ben nous, puis on prend. Qui veut des cacahuètes pas fumées à je sais pas quoi? On m'a dit, nous on veut. Qui veut des trucs secs? Nous on veut. Qui veut je sais pas quoi? Le gars avait score dans son sac quoi. Et ce jour-là, alors je finis mon sac puis je conclue là-dessus, mais je monte comme ça, je suis fatigué, j'en ai marre, je me plains et Dieu me dit, et là Dieu me parle, vous croyez-le ou pas, Dieu me parle, je suis presque en train de pleurer. Je dis, Seigneur, pourquoi tu me parles comme ça? C'est pas possible. Il me dit, c'est un orgueilleux qui abandonne. Un orgueilleux abandonnera toujours. Parce que celui qui est humble, qui dit, Seigneur, je n'ai plus de force, je n'ai plus rien, je me repose sur toi, je n'ai plus l'énergie pour mon mariage, je n'ai plus la force pour mon couple, je n'ai plus la force, Seigneur, je ne vais pas abandonner parce que je me repose sur toi. Un orgueilleux abandonne, un courageux continue. Et là, j'ai appris une grande leçon dans ma vie. À chaque fois que tu voudras abandonner, c'est que tu es en train de choisir le choix de l'orgueil. Je sais, la conclusion est dure. Et ce groupe-là, on a fini ensemble. Et puis à peu près à, je sais plus combien, un kilomètre de l'arrivée ou deux kilomètres de l'arrivée, Fabrice arrive. Lui, il t'énerve encore plus. Parce que lui, il a déjà fait la course. Il arrive, alors, ça va? Tu es en forme? Il a fini la course, il revient dans la course pour te chercher là. Il me prend la main comme ça, il marche comme ça, la main derrière le dos. Et moi, je m'appuie vraiment, mais je suis pas semblant, je m'appuie vraiment sur lui comme ça. Ça fait deux fois qu'il me fait le coup, deux fois qu'il me sauve la vie. Je suis comme ça, je marche comme ça, et tous les gars sont là. Et vas-y, t'inquiète pas, on est avec toi. Allez, tu peux y arriver. Il reste pas grand chose là. Quand le gars te dit reste pas grand chose là, tu sais que c'est faux. Il reste pas grand chose. Il reste un petit peu de temps. Et je me suis rendu compte que le courage, ça se communique. Mais l'abandon aussi. Quand tu as envie d'abandonner, tu vas influencer ta famille à abandonner. Quand tu parles négativement, tu fais « Moi, mes gars, ils puent, moi !» et le rhume qui coule partout, ça, c'est que ça communique. Mais quand tu fais « je l'abandonnerai pas » et t'as un gars qui vient qui dit « hey, je l'ai pour toi, c'est pas grave, t'inquiète pas », il y a une chose que j'aimerais dire rapidement. C'est que lorsque j'ai fait des parcours, plusieurs courses, on a fait une course la dernière fois avec Fabrice, puis il y a Tourmassin, on a fait le Piton des Neiges, c'était magnifique. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des gars qui étaient au départ. Et au départ, ils sont marrants, les gars. Allez, vas-y, tu veux y aller. Là, les coureurs s'en fichent de ce que tu dis. Parce que franchement, toi, tu restes en bas en plus, toi. Tu encourages le gars au départ, mais t'as pas vécu ce que lui va vivre. Après, t'as le gars à l'arrivée qui, lui, a pris 2 jours pour arriver. Lui est en forme, il boit son coca, son petit café. Lui aussi dit, vas-y, c'est super, tu vas y arriver. Ça, c'est bien. Là, le gars, ceux qui courent, ils sont encouragés. Mais il n'y a rien de mieux que d'être encouragé par quelqu'un qui court à côté de toi. Quelqu'un qui prend le temps de dire, tu sais quoi, je vais te prendre par la main, on va y arriver ensemble. Donc, pour conclure, une église de spectateurs n'a pas la puissance d'encourager. Elle n'a pas la puissance du courage que Dieu a mis en nous. Mais une église de joueurs, une église d'athlètes spirituels, une église de sportifs de l'esprit, une église d'hommes et de femmes qui se mouillent, qui mouillent le maillot, qui vont courir sur le sentier de la vie avec ceux et celles qui courent, eux ont la puissance de l'encouragement. J'oublierai jamais James Gufflet, qui est venu un jour faire avec nous Piton bleu. Encore un piton. Mais le pauvre gars avait des chaussures pas du tout adéquates. Disons, chaussures à la messe. Et il savait pas, le pauvre gars. C'était un long parcours. Le coach nous avait dit 15 km ou 12 km, c'était 19. Parce que parfois, il oublie les kilomètres. Et le pauvre James, je n'oublierai jamais, on est reparti le chercher. Et le pauvre, il marchait comme ça. Il faisait. Comme ça, parce que ses chaussures n'étaient pas adéquates. Et son pied est devenu schtroumpf. Bleu. Jusqu'à aujourd'hui, c'est bleu marine. Je vous promets. Mais ce qui a encouragé James, je pense, il est où James? Il n'est pas là, il s'est caché, il est là. Ce qui l'a encouragé, je pense, quand il a vu les 3-4 gars redescendre et remonter avec lui. Vous savez, il y a des gens qui sont dans les églises, et je prie pour qu'on ne soit pas comme ça, nous, d'accord? Mais il y a des chrétiens qui sont du haut de la montagne et qui disent, viens, allez, c'est bon là, c'est facile, grouille-toi, viens. C'est pas mal. Il y a des chrétiens qui vont quitter leur confort du sommet de la montagne, qui vont redescendre, sachant qu'ils doivent remonter. Ils vont redescendre et prendre les amis, et prendre les voisins, et prendre les frères, et dire, viens, on va monter ensemble. C'est ce genre d'église-là que Dieu veut qu'on soit. Une église qui a de la persistance, la persévérance. Une église qui court selon les règles. Une église qui a le bon carburant. Une église d'hommes et de femmes qui se disent, attends, je suis là pour toi. S'il faut que je redescende, je vais redescendre. Chercher l'autre et l'amener jusqu'au sommet. C'est ça une église qui rejouit mon cœur. Alors je tiens à vous dire que depuis que je cours un peu, j'ai vraiment été touché par Dieu. J'ai vraiment senti que sa main travailler mon cœur. Et je peux vous dire que mon orgueil prend un coup tous les jours. Alors je vous encourage à creuser votre vie vous-même. Voyez ce que vous pouvez faire pour que Dieu vous expose vos qualités de vie. Je me suis rendu compte que si je voulais changer, il fallait que je fasse face à mes défauts avec franchise. En d'autres termes, tu ne peux changer que ce que tu confrontes. Et quand une grand-mère te dépasse, tu sais, si ton cœur réagit comme mon cœur réagit, eh ben, tu sais que tu as encore de l'orgueil. Hier soir, j'ai eu de l'orgueil, je ne pouvais pas se me pécher. Hier soir, je courais et j'ai dépassé un gars. J'étais content. Après, Dieu m'a dit, Bruno, le gars a 40 ans plus que toi. C'est normal que tu le battes. Cours avec un jeune, tu vas voir. Ah oui. Parce que Dieu est tellement bon et t'aime tellement qu'il ne veut pas que tu pues l'orgueil. Ce matin, je suis venu vous dire du fond du cœur que je vous aime, que je prie pour vous, je prie pour que vous ayez de la persistance. Hein, Bruno? Persistance, persévérance. N'abandonne pas, ne baisse pas les bras. Si tu oublies tout ce que j'ai dit, n'oublie pas que seul l'orgueilleux abandonne. Parce que celui qui est humble, il se remet entre les mains de Dieu. Est-ce que vous savez que vous n'avez pas besoin de prier? Ne priez pas pour avoir plus de force ou plus d'énergie forcément, parce que sa force suffit. Quand vous êtes connecté à Dieu, que votre vie est saine et sainte et pure et qu'elle est équilibrée, que vous aimez Jésus, l'énergie qu'il vous donne, spirituelle et physique et émotionnelle, est magnifique. C'est un tout. Et même si parfois tu baisses un peu les bras ou tu as une mauvaise journée, eh bien Dieu sait, il comprend ça. Alors ce matin, je vais vous encourager, frères et sœurs, passez une très très bonne journée. Ce soir, on va prier pour tous les groupes de maison, pour tous les frères et sœurs qui vont en groupe de maison la semaine prochaine, enfin dans deux semaines. On va prier pour les coachs, on va prier pour les leaders, on va prier pour les co-leaders, ce soir, on va prier pour beaucoup de gens. On aura un message puissant et on va prier pour tout le monde, on va prier pour les malades, on va prier pour tous ceux qui ont besoin de Dieu dans leur vie. Ne ratez pas ce soir. D'accord? Ce matin, on a enseigné, ce soir, on va prier. Qui était là dimanche dernier? Dimanche soir. C'était extrêmement puissant. Oui ou non? C'était impressionnant. J'en ai rêvé toute la semaine. Je m'attends à ce que ce soir encore, Dieu fasse des choses extraordinaires. Avant de quitter ce soir, on va prier ensemble, si vous voulez bien. On va courber la tête et fermer les yeux quelques secondes. Ce matin, Esprit de Dieu, je te rends grâce, je te remercie de ce que ton esprit est en nous. Nous ne sommes pas là pour faire semblant de vivre une vie chrétienne. Nous ne sommes pas là pour une religion. Nous ne sommes pas là pour simplement avoir une communauté et surtout pas tomber dans le sectarisme. Nous sommes là pour prendre les principes de ta parole, pour vivre comme Jésus-Christ, pour être dans la course de la vie, pour jouer le match de notre vie, pour réellement avoir une vie que nous croquons à pleines dents, une vie généreuse, une vie épanouie, une vie bénie. Je prie particulièrement pour ceux et celles qui sont ce matin en ralentissement ou qui sont ce matin en mode arrêt ou sur le point d'abandonner. Seigneur, que tu enlèves de nos vies l'orgueil qu'il peut avoir. Et Seigneur, tu nous dis, tu nous montres réellement. Seigneur, je m'offre à toi. Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur, j'ai besoin de toi. Et lorsqu'on s'appuie sur toi, on ne peut qu'être que des vainqueurs. On ne peut que réussir. Parce que c'est par ta grâce, c'est par ta puissance, c'est par ton amour que tu fais la différence en nous. Et tout le monde dit bien fort. Passez un très bon dimanche. On vous aime. Bonne semaine. On vous verra donc ce soir pour ceux qui viennent. Dimanche prochain, le matin, on aura une célébration ensemble, bien sûr. Michael Brennenkamp sera parmi nous ce week-end. Vendredi soir, samedi soir. Et voilà, alors le projecteur va bientôt arriver, le nouveau projecteur. Comme vous le voyez, l'estrade est en mode construction. On finira bientôt. Un grand merci à tous ceux qui travaillent dessus. Merci à ceux qui ont mis l'estrade comme celle-ci. C'est une première ici, je pense, à La Réunion. Et c'est un succès pour nous parce que le son sort de l'estrade et c'est génial quand on prêche ou quand on chante. En tout cas, l'église progresse. N'oubliez pas qu'il y aura Hillsong Paris à La Réunion en octobre, ils passeront chez nous. Il y aura Luc Dumont qui va lancer son album en novembre, il passera chez nous. Il y aura Gabriel et Andy qui vont venir nous former à l'église, ils passeront chez nous. Il y aura Steve Rivier qui sera là, il passera chez nous. Ce soir aussi il y aura des pasteurs qui vont dans l'église, vous visitez des pasteurs. Voilà, bref, l'église va bien. J'ai hâte de reprendre les groupes de maison. Nous allons prêcher Christ avec joie et avec la vie dans nos quartiers. Lundi, mardi prochain, rejoins un groupe de maison. Que Dieu vous garde. Merci.